Napoléon, légende et vérité. Un feuilleton radiophonique hebdomadaire d'après le livre d'Henri Guillemin. Adaptation et voix, Stéphane Verru. Une coproduction compagnie avec Vue sur la mer, Radio PFM. Avec le soutien du Conseil régional des Hauts-de-France. 36e épisode.
Nous sommes habitués, nous autres, à dire Napoléon sans surprise. Mais rendons-nous bien compte. Lorsque Bonaparte résolut de se faire appeler, puisqu'il succédait au roi de France, par son prénom seul comme eux, l'opinion eut très certainement un petit haut-le-cœur et il lui fallut d'abord avaler sa salive. Ce prénom-là, Napoléon, était totalement inconnu en France. Et pourtant, c'était ainsi, dorénavant, qu'il fallait nommer le souverain. Tel était l'ordre, car tel était bien francisé, l'étrange mais authentique prénom de ce César venu d'ailleurs. Un César d'importation qui s'était importé lui-même. Les gens s'y étaient fait un peu dépaysés. Chacun articulait au mieux et respectueusement les syllabes augustes. Et les splendeurs par surcroît du sacre, un sacre inédit, fantastique. Les Bourbons, ces minables, allaient dans une cathédrale de province se faire oindre par un quelconque archevêque. Pour Napoléon, l'ecclésiastique ne sera pas un archevêque de service, mais sa sainteté le pape soi-même. Et Nabou surpasse même ce Charlemagne auquel il se réfère par-dessus les siècles. Charlemagne s'était rendu petitement chez le pape. Pour le caïd corse, c'est le pape au coup de sifflet qui se déplacera. Et il se déplace, en effet. Il dit à Notre-Dame, « Dieu tout-puissant et éternel, qui avait répandu l'onction sainte sur les têtes de Saül et de David, répandez par mes mains le trésor de vos grâces et de vos bénédictions sur votre serviteur Napoléon, que nous consacrons aujourd'hui empereur en votre nom. » Et le dit Napoléon à son tour, « Je jure de faire respecter les lois du Concordat, l'égalité des droits, la liberté civile et politique et l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux. » Un peu inattendue cette allusion mercantile dans la bouche de « loin du Seigneur », mais rassurante et nécessaire pour sa clientèle de base, les nantis de Thermidor et les paysans. Sa sainteté espérait se faire rendre au moins une partie des provinces que, loin du Seigneur, Bonaparte, lui avait volées pour les annexer à son royaume d'Italie. Mais loin lui fera répondre en pouffant que, protecteur d'un État étranger, il ne se reconnaissait pas le droit d'en diminuer le territoire. Et pourtant, on avait eu, à Rome, une idée que l'on avait crue séduisante, la canonisation d'un certain Pierre Bonaventure Bonaparte, qu'il y avait moyen de faire passer pour un ancêtre de l'empereur. Et, comme disait la chancellerie romaine, une canonisation est toujours, de la part de Rome, une faveur. Elle ne saurait être mieux placée qu'ici. On vend ce qu'on peut. Désappointement. Tout sacré qu'il fût, l'empereur était resté insensible à ce projet d'une promotion céleste dans la famille. Du moins décide-t-on à Rome qu'au 15 août, dorénavant, la naissance de Napoléon éclipsera la glorieuse Assomption de la Sainte Vierge. Le légat trouvera la formule appropriée, décrétant que, de par l'autorité apostolique, la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge et celle de Saint Napoléon seront unies à perpétuité. À perpétuité, on ne lésine pas à Rome. Mais rien n'y fait, pas la plus minime restitution territoriale. Le caïd est dur en affaires. Le budget des cultes, toutefois, sera vigoureusement renforcé. Il n'était que de 1 200 000 en 1803. il s'élèvera à 17 millions en 1807. Quant au 15 août, il remplacera pour les Français la fête nationale du 14 juillet.
C'est la vérité qui est coupable. Maximilien Robespierre. Napoléon, légende et vérité, d'Henri Guillemin, a été réédité en 2005 aux éditions Utovie.